Radio Jenny, la plus rebelle des radios. Caesar, hear me, the merchant of Venice, getting to your CV. As for me, all's well that ends well. Your boy is like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about tomorrow, I know all's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. That boy, your caller, I do it as you like. You much to do about nothing, all you do is bite it. I'm too tired, I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history's just like Henry the Fourth.
Bonsoir.
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 Nous sommes le mercredi 23 mai 2018. Il est 19h passé de presque 3 minutes et c'est l'heure du Canu Info. Qu'avons-nous ce soir en actualité ?
Ce soir, un petit point info sur la deuxième vague d'expulsion. C'est bien de la ZAD qu'on parle encore une fois. Après, on aura quelqu'un qui participe à la marche. Enfin, on va essayer d'avoir quelqu'un ou des gens où on comprend pas très bien qui on va réussir à avoir de la marche solidaire et citoyenne qui est partie de Vintimille il y a quelques jours et qui se dirige vers Londres en passant par un peu partout pour avoir des relais sur la politique migratoire de la France.
Ensuite, on aura une interview avec une personne qui est dans le studio de Virginie qui va nous parler du collectif Jamais sans toi.
Et puis, à Paris, printemps rime avec expulsion. Gérard Collomb veut évacuer les camps de migrants.
Ah, vous qui êtes lyonnais et lyonnaise, vous savez que c'est une des lubies de Gérard Collomb, c'est d'évacuer les camps de migrants.
Peut-être même une obsession.
Et ensuite, on ira au Sénégal où mai 2018, nouveau mouvement étudiant. Ah, je dis ça avec un petit air mystérieux parce que je n'en sais pas plus. Et on va faire un tour du côté de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis où les détenus du bâtiment D1 ont bloqué la cour des promenades en soutien au peuple palestinien qui font face actuellement à une sanglante répression. Ils ont envoyé un communiqué à Street Press qui le relaie dans son intégralité. Je vais vous en lire des tout petits passages. Ça commence par nous, détenus du bâtiment D1 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, avons décidé de bloquer la cour des promenades en soutien au peuple palestinien qui manifeste depuis plusieurs jours pour tenter de braver le blocus imposé par Israël et contre l'installation de l'ambassade américaine à Jérusalem. Même si nous sommes privés de liberté, nous tenons à manifester contre les massacres dans la bande de Gaza de la part du gouvernement israélien en solidarité avec les 61 Palestiniens tués par les forces militaires coloniales et les 2400 blessés. Nous bloquerons la promenade dans le calme jusqu'à l'arrivée des Iris. Alors les Iris, on le rappelle, c'est l'espèce de super police des prisons, une police super violente. Bref, parce que Fleury est la plus grande prison d'Europe, nous voulons exprimer notre solidarité avec Gaza, qui est la plus grande prison du monde.
Et dans le sud de l'Inde, eh ben, y a des morts, des manifestants. Tentation contre l'agrandissement d'une fonderie de cuivre est actuellement vraiment réprimée par la police. Les heurts entre les forces de l'ordre et plusieurs milliers de manifestants se sont poursuivis ce mercredi 23 mai. Ils ont fait plus d'une dizaine de morts depuis mardi, où les gens étant descendus dans les rues, s'en sont pris à des véhicules de police, plusieurs bâtiments gouvernementaux ainsi qu'un quartier résidentiel où sont logés les ouvriers l'usine ont été attaqués. Mais ça a été vraiment violemment réprimé. Et pourquoi ? Parce que la population locale dénonce depuis plusieurs mois la pollution de l'air et des eaux par l'usine qui appartient à la multinationale britannique Vedanta. Et ça, c'est un scénario récurrent en Inde où les normes environnementales sont régulièrement bafouées au profit de grands projets industriels. Et donc, l'usine est fermée depuis près de 2 mois et le restera au moins jusqu'au 6 juin. Et voilà.
Tout tout à l'heure en préparant ce Canu Info, mon sang n'a fait qu'un tour. Je suis tombé sur un titre qui disait « Les aides sociales ne seront pas remises en cause, jure Agnès Buzyn à l'Assemblée ». Et là, je me suis dit « Et merde ». Et alors effectivement, dans l'article, on apprend que la ministre de la Santé était interrogée aujourd'hui à l'Assemblée par un député communiste à propos d'un document de Bercy révélé par Le Monde. Sur ce document figuraient des pistes pour revoir les critères d'attribution de certaines aides sociales ou réduire leur montant. Et donc Agnès Buzyn a dit « Il n'y aura pas de remise en cause des aides sociales, protéger les plus fragiles ». C'est un des piliers de l'action de ce gouvernement, a-t-elle insisté. Et là, je me suis dit, eh merde, quand une ministre de ce gouvernement, ou de tous les précédents d'ailleurs, jure ses grands dieux, quoi que ce soit qui a l'air comme ça pas si mal, on peut être sûr qu'elle est en train de nous mentir.
Et donc, on part à la ZAD, un point d'info sur la deuxième vague d'expulsion. Donc, même si c'est le. Donc, comme on sait, c'est le grand titre des journaux. Là, il y a hier, aux alentours de midi, un camarade a été gravement blessé à la main et a été ensuite amputé à l'hôpital. Je vous lis un message diffusé sur Radio Klaxon hier, aux alentours de 19h20. On apprend que le copain blessé ce matin a dû être amputé. Pas de mots, si ce n'est dégoûté. Force et courage à lui et à toutes, sauf aux flics, parce que vous êtes des méchants et qu'on vous aime pas. Et sinon, donc, je vais vous lire un extrait du communiqué de l'équipe médique. Donc, l'équipe médique, c'est des personnes qui sont aussi des manifestantes et des manifestants et qui assurent aussi, du coup, les premiers soins, secours aux personnes. Parce que les flics sont souvent très agressifs hein, et aussi ont des armes très puissantes. Donc ils disent que la présence policière d'hier leur a empêché de porter secours à cette personne. Et voilà. Et après, donc ils disent « Depuis plusieurs semaines, nous alertons de la dangerosité avec laquelle sont utilisées les armes de la police. Nous déplorons la situation dramatique d'aujourd'hui, mais n'en sommes pas surpris. Nous avons déjà dû prendre en charge plus de 300 blessés lors de ces dernières semaines, suite entre autres à des tirs de grenades GLIF4, grenades de désencerclement et flashball. Nous réaffirmons que ce que le gouvernement met en place pour réprimer la ZAD est susceptible chaque jour de provoquer un mort, tout cela pour continuer à détruire des maisons et lieux de vie. Nous aimerions pouvoir dire que toute la lumière sera faite sur cette affaire, mais le classement sans suite de toutes les plaintes déposées suite aux violences policières du printemps 2016 à Nantes montre bien qu'il n'y a pas de justice à attendre pour ces victimes. La situation d'aujourd'hui repose plus que jamais la question suivante. Jusqu'où l'État est-il prêt à aller pour combattre les formes de vie collective qui ne rentrent pas dans leur case? Il faut que le dispositif policier se retire enfin de la ZAD et cesse ses attaques. Ensuite, ce matin et hier soir, très rapidement, il y a eu des messages sur Radio Klaxon, donc des messages de prévention. Donc, si la police balance des grenades qui n'explosent pas, ne te précipite pas pour la ramasser, même avec des gants. Attends la fin des combats pour venir la récupérer et la mettre hors d'état de nuire. Prends soin de toi et de celles et ceux qui t'entourent. Donc voilà, en fait, c'est comme ça que les zadistes réagissent. C'est important, là, comme ça a été vraiment médiatisé, de voir aussi que les gens, ils sont direct concernés et puis ils réagissent directement pour qu'il n'y ait pas de nouvelles personnes amputées. Donc, pour faire un point d'info plus général, donc, la seconde vague d'expulsion a été amorcée donc, le jeudi 17 mai au matin, la semaine dernière. Une nouvelle tentative d'éradiquer une partie de la ZAD. Elle fait remonter dramatiquement la tension dans le bocage et laisse plus de personnes encore privées de leur logement et de leur espace quotidien d'activité. Donc les routes et chemins sont une nouvelle fois envahis par un dispositif militaire inédit en termes d'ampleur et de durée dans l'histoire du maintien de l'ordre en France. Cette démonstration de force est sans doute à la hauteur de l'affront qu'a présenté des années durant cet espace de résistance et d'expérimentation. Donc l'acharnement de l'État est significatif et on ne sera On continuera à le répéter. Et donc aujourd'hui, mercredi 23 mai, comme hier, une cinquantaine de fourgons, des 4x4, des blindés, des fourgons de renseignement sur la D81, 150 flics à pied tout le long du chemin de Suez jusqu'à la barricade, des flics à pied dans les champs à l'ouest de Forêt-Châtaigne. Bref, c'est le quotidien depuis jeudi dernier pour les zadistes. Donc force et courage. Et je vous fais passer un dernier message de Radio Klaxon. Si vous avez, on veut bien des crédits code Laïka à l'adresse mail de Klaxon, radio.klaxon@riseup.net. Donc n'hésitez pas à envoyer des recharges Laïka mobile. Donc crédit code, ça s'envoie même par SMS, du moins par SMS, je veux dire pas sur l'adresse mail. Donc n'hésitez pas, mettre 5 euros pour eux et elles.
Allô, bonjour.
Bonjour.
Alors, on est en ligne avec quelqu'un dont je ne sais pas encore très bien qui c'est, parce qu'on a, on ne s'est pas hyper bien organisé pour préparer. Quelqu'un de cette marche citoyenne et solidaire. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, mais avant de peut-être de présenter la marche?
Oui, alors la marche citoyenne solidaire a commencé le 30 avril à Vintimille, donc à la frontière franco-italienne, et va traverser toute la France pour arriver le 8 juillet à Londres, en passant par demain Lyon, le 17 juin à Paris, Calais le 7 juillet et le 8 juillet à Londres. Donc voilà, 1400 kilomètres pour promouvoir l'accueil des réfugiés, protester contre le délit de solidarité, demander l'ouverture des frontières et aussi surtout mobiliser toutes les associations le long de la route, partager des informations, générer de l'enthousiasme, de l'espoir entre nous. C'est très convivial. Alors moi, je m'appelle Maya, je suis de l'Auberge des Migrants, donc je suis de Calais. Et je marche, je fais toute la marche de Vintimille jusqu'à Londres.
Tu es de Calais, ça veut dire que tu habites à Calais le reste
oui,
du
voilà.
temps, quoi.
Je suis originaire de Calais.
D'accord.
Ça fait 4 ans que je suis impliquée dans l'association L'Auberge des Migrants. J'en suis la secrétaire aujourd'hui, donc j'ai les deux pieds dedans.
Ok. Alors, est-ce que peut-être tu peux nous présenter aussi, est-ce que tu peux nous présenter aussi l'Auberge des Migrants en tant qu'association?
Oui. Alors, l'Auberge des Migrants est une association qui a été fondée en 2008 par une personne qui s'appelle Christian Salomé et qui est aujourd'hui toujours président, même s'il il devient âgé, donc il ralentit un petit peu. Et donc, au départ, c'était une association qui était fondée pour donner de l'aide humanitaire, donc principalement de la nourriture et des vêtements aux exilés qui sont à Calais, et qui sont à Calais en fait depuis 1999. Donc ça fait longtemps qu'il y a des exilés à Calais qui sont bloqués là parce qu'ils essayent de passer en Angleterre. Et l'association a énormément grandi, elle a commencé à grandir en 2014 et surtout en 2015 quand il y a eu un énorme afflux de réfugiés qui venaient de partout à Calais. La population a beaucoup augmenté et aussi parce que la population d'exilés augmentait et qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient en Angleterre, ça a réveillé les Britanniques qui pour la première fois sont venus sur Calais pour voir ce qui se passait et avoir envie d'aider la situation. Enfin, c'était des Anglais qui étaient contre la politique de David Cameron. Et donc ils sont venus nous aider, ils nous ont proposé de nous aider, de nous soutenir financièrement, de nous apporter des bénévoles, de nous aider dans la logistique. Et on pensait qu'ils allaient rester 3 mois, mais ça fait 2 ans et demi et ils sont toujours là. Donc aujourd'hui, on a un entrepôt de 2500 mètres carrés sous lequel travaillent 8 associations différentes. deux britanniques et françaises. Et on a 50 à 70 bénévoles qui travaillent tous les jours pour faire à manger aux exilés, distribuer des tentes, des couvertures, etc. Parce qu'il faut savoir qu'à Calais, la situation est dramatique. Il n'y a plus de jungle comme celle qu'on a vue dans les images. Mais justement, les gens vivent dans la rue et... font face à des démantèlements de leurs tentatives d'installation, très vagues installations, sans arrêt. Depuis le mois d'octobre, il y a eu 140 démantèlements faits par la police. Donc ça n'arrête pas.
Mais alors c'est ça, parce que du coup l'Auberge des Migrants est donc, comme tu viens de nous le décrire, au départ plutôt une association humanitaire, et là vous vous retrouvez aujourd'hui avec cette marche dans une démarche qui est, enfin bon, même si on peut pas complètement opposer les deux, mais qui est quand même bien plus une démarche politique. Comment s'est fait ce pas, comment,
bah, écoutez,
pourquoi
on se rend compte on se rend compte quand on fait de l'humanitaire, on se rend compte très vite que c'est impossible de rester à l'humanitaire, parce que l'humanitaire est une belle chose à faire, mais c'est pas ça qui change les choses. On est obligé de par la force de faire un peu de politique pour essayer de faire changer les choses. L'humanitaire ne fait pas changer les choses, il aide, c'est sûr, et il est nécessaire, et on le revendique, mais quelquefois on a été obligé de, par exemple, on a fait des procès à l'État parce que l'État ne faisait à Calais des choses illégales. Donc par exemple de ne pas protéger les personnes, les mineurs qui sont à Calais, de laisser les gens sans toilette, sans eau, sans douche, c'est pas normal. On est dans le pays des droits de l'homme, donc on a dû faire des procès à l'État. Et l'année dernière, on a gagné un référé liberté contre l'État. L'État a fait appel et on a gagné, et on a réussi à faire en sorte que l'État soit obligé de mettre en place des points d'eau, des toilettes et des douches pour les exilés. Donc, voilà, quand on a besoin de faire des procès, on fait des procès. Alors là, cette marche, c'est une démarche politique, mais aussi citoyenne.
Alors pour continuer un tout petit peu sur Calais, puis après j'aurai d'autres questions aussi, mais on se souvient un moment de cette grande déclaration d'Gérard Collomb de « bon, les associations de toute façon à Calais, elles font chier, c'est l'État qui va remplir son rôle, et en particulier l'État va organiser des distributions de nourriture ». Il se trouve que visiblement l'État n'a pas été complètement à la hauteur de la tâche.
Oui, alors nous on pense tout le temps que quand Emmanuel Macron a annoncé que des repas allaient être servis aux exilés à Calais, en fait il s'est trompé. Il n'avait pas du tout l'intention d'annoncer. Enfin,
il
s'est trompé. C'était pas dans les plans du tout, parce que tout son entourage était complètement surpris. Ça ne tenait pas debout avec le reste de sa politique. Donc on pense qu'il s'est trompé et que, bah, comme il l'a annoncé publiquement, il a été obligé de faire suite à ça et de distribuer de la nourriture. Alors il faut comprendre que les exilés, ils ont été extrêmement choqués par cette distribution de nourriture, parce que d'abord au départ c'était la nourriture était distribuée dans un endroit qui avait été complètement entouré de barbelés, avec juste pour une petite porte pour entrer et sortir, et la présence de la police. Donc ils se sont dit, c'est un guet-apens, on n'y va pas. Et après, quand ils ont commencé à y aller, ils se sont rendus compte que quand ils allaient manger le repas de l'État, bah, pendant ce temps-là, les CRS détruisaient leurs tentes. Alors ils ont dit, il n'y en est pas question, nous on ne va pas accepter de la nourriture d'un État qui fait ça de la main gauche et de la main droite détruit nos tentes. Donc maintenant, petit à petit, ils commencent à s'habituer, et il y a une partie des exilés qui va manger ces repas, mais nous on continue toujours à servir des repas tard le soir, parce que y a plein d'exilés qui refusent de manger des repas parce qu'ils ont peur que leurs affaires soient détruites pendant qu'ils vont manger.
Alors là, tu viens de nous parler pas mal de Calais. Est-ce que tu, dans la mesure, enfin, alors pardon, malgré le fait que tu n'habites pas à Vintimille, est-ce que tu es capable de nous parler aussi un petit peu de comment ça se passe de l'autre côté de l'Hexagone, quoi ?
De l'autre côté de quoi?
De l'Hexagone, du côté Vintimille.
Tu veux dire en Angleterre?
En Italie.
À la frontière italienne.
À la frontière italienne? Bah, et à la frontière italienne, tout le monde connaît Cédric Herrou, maintenant qu'il y a eu beaucoup de problèmes, justement, parce qu'il aidait...
Fait comme si on ne le connaissait pas.
Non, à traverser les frontières, mais à essayer de les aider à faire en sorte qu'ils demandent l'asile, alors qu'ils étaient déjà en France, dans cette vallée de la Roya, qui est un petit coin entouré d'Italie. Il s'est beaucoup battu, et la situation, elle est catastrophique aujourd'hui pour les exilés qui arrivent en Europe, parce que la réglementation Dublin empêche les gens de demander l'asile dans le pays de leur choix. Donc la réglementation Dublin dit que toute personne qui a eu ses empreintes digitales prises dans un pays, dans un premier pays d'arrivée, est censée demander l'asile dans ce pays. Or, c'est absolument pas logique que ça se passe comme ça, puisque tous les exilés, quand ils arrivent en Europe, ils arrivent dans 3 ou 4 pays différents. C'est l'Italie, la Grèce, la Bulgarie ou la Hongrie. Il n'y a personne qui arrive directement en Suède ou en France. Donc, c'est une réglementation qui est pas logique, qui tient pas debout, nous on proteste fortement là-dessus, et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup d'exilés qui sont à Calais et qui veulent aller en Angleterre, parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas demander l'asile en France. Ils ont eu leurs empreintes digitales prises en Italie ou en Grèce, et ils ne peuvent pas demander l'asile ailleurs que dans ces pays-là, et ce sont pas du tout des pays corrects où demander l'asile. Ils n'arrivent pas, quand ils ont des papiers là-bas, ils n'arrivent pas à s'en sortir.
Mais pour revenir sur la situation de Vintimille, elle est vraiment compliquée, parce que contrairement à Calais, il y a peu de solidarité et de soutien vis-à-vis des personnes qui essayent de passer la frontière. Justement, tu le vois comme un héros, ce Cédric là, mais il a compliqué beaucoup le passage des personnes avec sa militance, et il y a beaucoup de gens qui sont dans la zone là-bas qui concrètement critiquent aussi ce qu'il a fait, parce que en gros il a donné tous les chemins aux flics qui étaient quotidiennement permettaient le passage de gens, et qui fait qu'ils peuvent plus du tout, parce qu'il y a des checkpoints sur tous ces endroits maintenant. Donc ce qui fait que c'est des endroits où du coup les gens qui passaient il y a pas si longtemps restent bloqués. Et du coup, ça fait que ça fait aussi, sous le pont, là, à Vintimille, une situation absolument quand même tendue, et peu de personnes qui sont là-bas au quotidien, contrairement à Calais, non?
Oui, la situation, elle est vraiment extrêmement difficile à Vintimille. Nous, quand on a traversé la frontière de Vintimille jusqu'à Breil, on a vu pas mal de police qui nous surveillaient et qui voulaient s'assurer qu'on n'avait pas de migrants parmi nous. Et puis il y a des démantèlements à 20 000 aussi, quoi. La situation ne tient pas debout en France, quand on voit que à la frontière franco-italienne on empêche les gens de rentrer en France, et à la frontière franco-britannique on les empêche de sortir. Rien qu'avec ça, on se dit il y a quelque chose qui cloche.
Non, quoi, tout à fait.
Dans la politique gouvernementale.
Mais j'ai une question. Votre marche, elle est juste deux personnes. Qui ont entre guillemets des papiers, c'est pas un mélange entre personnes migrantes justement et personnes solidaires.
Alors on a quelques migrants qui marchent avec nous. Alors on a les associations qui nous accueillent essayent d'avoir des demandeurs d'asile qui participent à cette marche. Ils leur en parlent, ils essayent de faire un petit peu de communication, mais alors les demandeurs d'asile, ils ne peuvent que marcher une journée avec nous, puisque un demandeur d'asile, en gros, sa vie appartient à l'État, l'État, quand ils sont dans des CAO ou dans des CADA, des centres d'accueil, ils n'ont pas le droit de les quitter. sinon on les déclare en fuite ou ils perdent leur place. Donc ils viennent pour la journée et c'est à peu près tout. Par contre, en plus de ça, s'ils sont pas dans une situation de demandeur d'asile légal, ils sont pas en sécurité, quoi. C'est pas du tout une bonne chose. Par contre, on a des gens qui ont le statut de réfugié, qui viennent marcher avec nous pendant quelques jours. En ce moment, on en a deux. On a un cinéaste iranien qui a dû fuir son pays parce que à cause du cinéma qu'il faisait là-bas, et qui fait toute la marche avec nous et va faire un long métrage. Il est très utile à la marche, il est extrêmement engagé et c'est très bien. Et on a aussi un Pakistanais qui tous les deux venaient de la jungle de Calais, ils ont vécu dans la jungle de Calais. Et donc maintenant là, on a en ce moment un Pakistanais qui fait le Ramadan et qui fait la marche. Il en est à son quatrième jour et il tient le coup.
Alors on n'a plus beaucoup de temps là, mais du coup, est-ce que tu peux nous rappeler, nous résumer, nous synthétiser les revendications de la marche ?
Alors il y a trois revendications de la marche: promouvoir l'accueil des réfugiés et promouvoir l'accueil en général, hein, pas seulement des réfugiés, mais des sans-papiers, de tout le monde, promouvoir l'idée d'accueil, et c'est ça qu'on voit dans toutes ces villes qu'on traverse, où on est accueilli par les associations et les personnes qui sont positif vers l'accueil, et nous aussi on accueille quelque part, on accueille aussi les associations. Ce soir c'est nous qui faisons à manger et qui invitons les personnes de Vienne à manger avec nous. La deuxième chose, c'est demander l'ouverture des frontières, le déblocage des frontières, au moins, même si on peut pas complètement rêver qu'il y aura plus de frontières, c'est pas quelque chose de très faisable, mais il faut un déblocage. La situation telle qu'elle est à la frontière franco-italienne et à frontière franco-britannique, elle tient pas du tout le coup. Surtout, elle est même pas respectée par l'État, puisque quand des mineurs arrivent à Nice ou réussissent à traverser la frontière franco-italienne, ils se font renvoyer en Italie alors que c'est complètement illégal. Et on voit la même chose.
La troisième revendication. Donc,
ça c'est insupportable. Et la troisième chose, c'est la fin du délit de solidarité. Alors le délit de solidarité, soi-disant, il a été assoupli finalement avec cette loi qui est en passe de passer. Mais il n'y a pas seulement le délit de solidarité, il y a aussi le fait que, comme vous l'avez mentionné, avec Macron qui disait, ou Colomb qui disait, allez développer vos compétences ailleurs, il disait ça aux associations. Nous, on voit ça à Calais tout le temps, un découragement systématique de la part de l'État, des citoyens. L'État on a un État qui ne veut pas que les citoyens s'engagent et participent à la construction de leur ville, à la construction de la société, à la construction de leur pays. On est découragé tout le temps nous à Calais, on voit que l'État ne sait pas quoi inventer pour nous décourager d'être là et d'exister. C'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt.
Et alors, là on va terminer, mais du coup, nous, on te téléphone de Lyon, où vous serez demain soir. Qu'est-ce que vous nous proposez comme activité pour votre arrivée à Lyon ? Activité, rendez-vous.
Alors, c'est pas nous qui proposons des activités. Il faut savoir que quand on arrive dans une ville, on a déjà pris contact avec les associations et on a dit dès le départ, c'est l'auberge des migrants qui organise la marche, mais la marche ne nous appartient pas. La marche appartient à toutes les associations qui veulent bien se mobiliser autour de la marche. Donc dans chaque ville, Ce sont des associations ou des citoyens indépendants qui ont organisé un accueil de la marche et qui ont organisé des activités.
Et alors, donc à Lyon,
je sais qu'il y a beaucoup de choses prévues à Lyon demain. Les marcheurs vont être invités à aller voir une pièce. Donc je ne connais même pas le nom, mais parce qu'on me l'a pas dit. Il y a une pièce de théâtre. Il y aura un débat citoyen. Il y a aussi un concert de musique des Balkans. Et je sais qu'il y a aussi il y a la confluence de trois marches. Donc il y a notre marche solidaire, il y a une marche de Grenoble jusqu'à Lyon qui a été organisée par quelqu'un qui en fait a travaillé sur Calais pendant plusieurs mois, et il y a aussi la marche des cobayes, la marche écologique qui nous rejoint aussi à Lyon. Donc
le rendez-vous à Lyon c'est où?
Ah ben alors là, ça c'est une bonne question. je ne suis pas capable de vous le dire parce qu'on ne met pas au courant du rendez-vous à Lyon. Alors pour pour connaître le point de rendez-vous à Lyon, il faudrait envoyer un mail à marche.auberge@gmail.com et vous aurez la réponse.
D'accord. Eh bien, écoute, merci Maya. Et puis voilà, nous, on va passer à la suite et on vous souhaite bon courage pour la suite de la marche.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Et alors, pour rappel, le printemps rime avec expulsion. Et aujourd'hui avait lieu un rassemblement en soutien aux mineurs isolés qui s'est organisé devant la métropole de Gerland pour lutter pour une politique d'accueil concrète de toutes les personnes venant se réfugier en France. Et aujourd'hui, nous accueillons dans les studios Virginie, qui est membre du collectif Jamais sans toi. Rebonjour.
Bonjour.
Qui lutte donc pour trouver des solutions concrètes à des familles dont les enfants sont scolarisés dans leur établissement. Et on avait parlé notamment à l'automne dernier, vous aviez occupé un gymnase pour des familles. Et alors, depuis hier, il y a de nouvelles occupations. Est-ce que tu peux nous expliquer la situation de l'école Douaneau?
Alors oui, effectivement, l'école Douaneau dans le premier arrondissement. Les familles avaient, suite aux occupations qui ont eu lieu effectivement au mois de novembre, début décembre, au niveau de l'école, il est arrivé un moment donné où les familles qui étaient surtout vraiment à la rue, dans des campements au jardin des Chartreux, sous tente, il devenait impossible pour elles de rester dehors, on a décidé d'occuper l'école. Puisqu'on n'avait aucune solution qui était offerte aux familles, au niveau que ce soit de la mairie, de la métropole, enfin au niveau de la préfecture, il n'y avait rien qui était proposé aux familles. Donc on a décidé d'ouvrir l'école, un petit peu avec force, parce qu'on avait eu un beau comité de soutien avec la police qui était là. On a réussi quand même à occuper l'école durant une bonne semaine. Ensuite, un petit peu au fur et à mesure, chaque famille s'est vue proposer un hébergement en hébergement d'urgence dans des lieux différents, souvent éloignés de l'école, ce qui fait que les familles continuaient toujours à venir régulièrement à l'école, ça c'est important. Les enfants, même hébergés à Perrache ou même à Pierre-Bénite ou au fond du 5e, finissaient toujours par venir à l'école avec régularité.
Est-ce que tu peux nous situer où est l'école Douaneau? Parce que je ne sais pas si c'est évident pour
toi. Elle est dans la rue de la radio, en fait.
C'est-à-dire
à peu près à 20 mètres. Dans le premier, c'est bas des pentes de la Croix-Rousse. Voilà. Il y avait aussi, il faut bien le dire, il y avait trois écoles concernées au niveau des pentes. Sur Lyon, et on va élargir à Villeurbanne, Vaux-en-Velin, il y a beaucoup d'écoles concernées. Bon, là, je vais parler un petit peu en particulier des écoles du centre-ville. Où effectivement, donc, on a fini par occuper le gymnase de l'école. Il y avait évidemment les tapis aidaient, et on s'est relayé à plusieurs familles. Les enseignants aussi de l'école aidaient forcément, parce qu'à chaque fois, on ne voulait jamais laisser les familles seules dans l'école. Donc il fallait se relayer. Il y avait au moins à chaque fois un enseignant et une famille qui était là pour pouvoir le matin libérer l'école le plus tôt possible dans un état effectivement propice à l'école, enfin en tout cas aux enseignements. Tout s'est toujours très très bien passé. On a eu quand même pendant une bonne semaine tous les soirs la présence policière très importante qui augmentait, des vigiles qui étaient payés, hein, il n'y avait pas que la police, on va
dire. Qui étaient payés pour vous empêcher de rentrer ou quoi ?
Oui, oui. Des vigiles en dehors, on va dire, du contexte, enfin, c'était pas des policiers, des salariés de la police nationale ou municipale, dans le cas, qui étaient payés pour venir surveiller toute la nuit, quasiment l'école, les entrées, les sorties. Après, il y a eu un
mais
petit peu...
Mais vous arriviez à rentrer quand même et oui, à tenir à l'intérieur de l'école.
Toujours. Alors, ça pouvait être très long. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des longs moments de négociation. On était nombreux, hein. Il y a une soirée, on était plus d'une centaine devant l'école. Chaque collectif venait aider les autres collectifs à chaque fois, donc des différentes écoles. Donc ça faisait quand même du nombre, on était pourtant en plein hiver. Il y avait des goûters solidaires qui aidaient un petit peu, on va dire, à noyer le poisson, à faire bloc devant l'école et puis pouvoir y rentrer plus facilement. Ensuite, les familles, au fur et à mesure, se sont vues proposer des hébergements dans des lieux donc, que j'ai cités tout à l'heure, jusqu'à la fin de la trêve hivernale. Et là, ça fait... Donc, on va dire que le premier moment difficile, c'était il y a un mois, puisque la caserne Chabal à Saint-Priest, il y avait des familles qui ont mis tout le monde à la rue. Certaines familles de Chabal se sont vues proposer d'autres hébergements dans d'autres lieux, l'hôtel de Genève, père de Apérache, le foyer de la Sarah dans le 5e. Et là, donc, depuis un mois, donc, grosse libération de Chabal il y a un mois. Et puis, il y a une semaine, là, c'est l'hôtel de Genève qui a mis tout le monde à la rue, qui concerne des familles de l'école, mais qui se sont vues proposer des hébergements quasiment au jour le jour dans des hôtels. Et nous, la famille, enfin une des familles est vraiment à la rue depuis donc hier matin. Donc hier soir, on a décidé à nouveau d'occuper l'école. Et il risque d'y avoir, demain matin, le foyer de la Sarah est vidé. Donc ça veut dire qu'il y a 17 familles à la rue demain matin à 8h. Ce qui correspond à 49 personnes, dont des enfants en bas âge, des femmes enceintes et des femmes toutes seules.
Et je vais faire un rappel, c'est que la loi garantit non seulement l'inconditionnalité de l'hébergement d'urgence, mais aussi la continuité de celui-ci. Mmh. Autrement dit, toute personne qui en fait la demande devrait pouvoir, à minima, rester dans un dispositif d'hébergement d'urgence. Mmh. Du coup, ça, c'est ce qui est écrit dans la loi. On sait que les faits sont autrement. Mmh. Et du coup...
c'est-à-dire qu'on parle partout de restaurer l'état de droit, mais par exemple, dans ce domaine-là particulièrement... On manque de paroles gouvernementales à propos de restaurer l'état de droit.
Oui, tout à fait. Mais en tout cas, là, tu parles de l'école Douaneau, là, qui est à côté de la radio. Mais tu me disais tout à l'heure, il y a d'autres écoles actuellement occupées. Du coup, est-ce que tu peux nous faire un point là-dessus ?
Alors effectivement, il y a une école dans le 3e arrondissement, l'école Léon Jouot, qui a été occupée pendant plus d'une dizaine de jours avec des familles. Donc une maman seule avec ses enfants. Là, en fait, depuis quelques jours, la maman en a eu un petit peu marre. Elle a trouvé un hébergement dans un squat à côté, mais bon, la famille est toujours suivie et en attente d'hébergement. Il y a l'école Gilbert Dru dans le 7e arrondissement, où là, les familles se retrouvent à la rue demain matin, puisqu'ils sont au foyer de la Sarah, et notamment une famille avec un enfant gravement handicapé. Donc là, ça va être un petit peu lourd et difficile, parce que c'est vraiment à la rue, sans aucune solution proposée. Voilà, nous on a après l'hébergement de droit, c'est un peu compliqué parce que nous, ce qu'on entend au niveau des réunions avec la préfecture, avec la métropole, c'est que il y a des gens qui ne sont pas légitimes sur le territoire, des gens qui sont sans papier, et donc nous on monte des dossiers en dehors d'occuper l'école. On a un autre travail qui se voit pas, qui est d'aider les familles à faire des dossiers de régularisation si c'est possible. À savoir que ça se fait un peu à la discrétion du préfet et que c'est très lourd à monter, qu'il faut par exemple des dossiers. On a des familles qui ce sont des Roms d'Albanie, il faut des papiers, il faut des traducteurs assermentés d'albanais. Donc ça, il faut payer, parce que justement, des traducteurs en albanais, on peut en trouver, mais assermentés, il faut payer, c'est pour pouvoir justement traduire les actes de naissance, traduire tout un tas de papiers, monter des dossiers, c'est-à-dire faire des dossiers où il y a mentionné l'assiduité des élèves, leur comportement à l'école. C'est, donc vous imaginez que tout ça, c'est, ben, il faut en mettre beaucoup, ça prend beaucoup de temps. Les familles, ben, il faut les aider parce que ce sont des papiers à remplir. Et que c'est déjà pas facile pour quelqu'un qui parle le français, des fois. Alors là, c'est, donc c'est,
bah, c'est du jargon important quand même. Hein, les, oui. En plus que...
Donc ça veut dire que nous, enfin, au niveau de quelques enseignants là, de l'école et puis des parents, on a un travail important de relais auprès des familles, de bien suivre leur papier, suivre leur dossier, aller faire des photos d'identité. Ce sont quand même des familles, bon, qui sont à la rue et qui ont très très peu de moyens financiers. Donc les week-ends, quand les écoles sont occupées, la semaine ça va à peu près, mais les week-ends, c'est compliqué d'occuper une école. Donc les collectifs, nous on fait beaucoup de goûters solidaires, pour quoi faire? Tout simplement pour payer des nuits d'hôtel. Et c'est pas évident de trouver des nuits d'hôtel. Par exemple, un truc qui m'a fait hurler, c'est que la semaine dernière, il y avait un énorme match de foot à Lyon, mercredi dernier. Et que là, on avait des familles à loger, on a trouvé il n'y avait pas de place, nulle part. Donc les familles se retrouvent hébergées dans les familles des écoles. Un petit peu là où on peut, souvent c'est des familles importantes, hein, c'est-à-dire des papas, maman, plus trois enfants. Donc ça fait cinq personnes à loger, c'est pas évident pour tout le monde, pour tous les parents. Donc,
Et alors je sais bien que là actuellement, bah, vous êtes dans une urgence énorme pour trouver des solutions concrètes pour les prochaines semaines pour plusieurs familles. Mais tout à l'heure, vous faisiez une réunion. Est-ce que vous avez parlé de aussi d'actions un peu contre cet État et ses politiques migratoires?
Là, on essaye de se mettre d'accord tous les collectifs pour essayer de faire des opérations un peu coup de poing. C'est-à-dire de nous réunir et d'aller devant les écoles un petit peu chaque soir, en grand nombre. Parce que dans une école, c'est quand même... si on se retrouve à 4-5 devant l'école, ça ne sert pas... Il faut que ce soit visible. Il faut que le message soit entendu. Les réunions à la préfecture, les réunions avec à la DDCS, donc la direction déléguée à la cohésion sociale, on en a eu une la semaine dernière, où on essaye un petit peu de nous noyer en nous expliquant qu'effectivement, il y a des personnes qui ne sont pas légitimes, donc c'est à la rue, que le critère de vulnérabilité des familles. Alors ça, c'est quand même quelque chose de très très fort et qui nous met aussi beaucoup en colère, c'est-à-dire qu'une femme enceinte est prioritaire, mais c'est à partir de 7 mois de grossesse. Donc voilà, après un enfant en bas âge, ça veut dire quoi un enfant en bas âge? Donc c'est un petit peu, ça change. Le critère de vulnérabilité qui était donné en hiver, en début d'hiver, il n'est plus le même maintenant.
Ça, c'est est-ce qu'un enfant de moins de 3 ans en bonne santé est prioritaire par rapport à un enfant de 7 ans malade?
Exactement. Ça, c'est... Il y a des chiffres sur des papiers, des cases à remplir. Et ça, c'est effectivement... On fonctionne avec de l'humain. Chaque famille est différente. Et de toute façon, à la rue, même si c'est les beaux jours, si c'est pour se retrouver à nouveau dans le jardin, là-haut, sans eau courante ni rien, c'est compliqué de venir le matin à l'école. Pour ces enfants-là.
Bah oui, avec tout ce que tu nous as dit, on voit bien l'hypocrisie quand même de ce gouvernement. J'ai trouvé une information, c'est que le mardi 29 mai, tu veux nous la présenter, la soirée.
Voilà. Alors, d'ailleurs, la soirée, là, elle va commencer par un goûter devant l'école Douaneau à 16h30, ou même un petit peu plus tard. Enfin, il y aura possibilité de venir plus tard. Et ensuite, il y a donc une troupe de théâtre qui se propose de faire un spectacle à la salle Paul Garcin, à Lyon dans le premier, et qui reversera donc les bénéfices au collectif Jamais Sans Toi. Je dis au collectif au pluriel parce qu'il existe un énorme collectif Jamais Sans Toi, mais il y a plein de petits collectifs. Et tout l'argent que l'on récupère de façon assez rigoureuse, on fonctionne un peu à l'urgence. C'est-à-dire s'il y a une famille qui a besoin, un timbre fiscal pour un dossier de régularisation, on va piocher dans la cagnotte. S'il y a besoin de nuit d'hôtel, on pioche dans la cagnotte. Voilà, toutes ces petites choses. Un traducteur assermenté, on pioche dans la cagnotte. Elle n'est pas si grosse que ça, la cagnotte.
Oui, c'est ça, c'est que on a l'impression que ça fait beaucoup de dépenses quand même pour une cagnotte.
Mais surtout que ce sont les familles qui viennent au spectacle, qui en général sont les familles qui occupent l'école, qui préparent les gâteaux pour les goûters solidaires. Donc on tourne un petit peu en rond et on fait le travail que d'autres personnes devraient faire.
et pour le spectacle. Donc il s'agit de l'association Harmonica qui a monté ce spectacle. Et alors le spectacle est gratuit pour les familles qui sont soutenues par les collectifs Jamais Sans Toi. Donc ça c'est toujours des chouettes initiatives. Et sinon c'est 12 euros tarif plein et 8 euros tarif réduit, sachant que c'est de l'argent qui va aussi, ensuite servir en solidarité.
Tout à fait.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu à la radio pour continuer sur l'hypocrisie gouvernementale. Aujourd'hui, notre ancien maire et nouveau ministre de l'Intérieur, le fameux nommé Gérard Collomb, a annoncé une évacuation à bref délai, j'aime bien cette expression, à bref délai, des campements de migrants à Paris. Donc c'est hallucinant parce qu'il y a énormément de gens qui squattent à Paris un peu dans plein de rues et dans plein d'endroits. Mais en gros, il s'agirait de 2300 personnes. Ça dénombrerait 2300 personnes, ce qui est quand même hallucinant. Et il s'en prend à l'absence de mesures prises par la mairie de Paris pour éviter aux camps de se reformer après les évacuations, mais également à la mauvaise gestion de l'hébergement à Paris. Donc ça fait plusieurs semaines que des milliers de personnes sont prises entre deux feux. D'un côté Gérard Collomb et de l'autre Anne Hidalgo qui est la maire et qui en appelle à l'État pour leur évacuation. Et en fait, donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle la patate chaude qui vole entre le ministère et la mairie. Personne ne veut s'en occuper et surtout personne ne veut enclencher le pas pour avoir les mains sales. C'est vraiment, encore une fois, je veux dire, ça fait des années qu'il y a ces démonstrations-là, mais c'est encore une fois ça. Et par contre, entre ces deux-là qui vont jamais se faire expulser ni de leur ministère ni de la mairie, y a des gens qui sont dans des conditions sanitaires qui se dégradent de plus en plus. Et en plus, ils vont se faire virer comme des malpropres.
Allez, on
arrête de casser ton micro tout le temps.
Voilà, très bien. Allez, on change de continent. Y aurait-il une malédiction du mois de mai au Sénégal, se demande le journal L'Observateur Palga, qui est ce fameux journal burkinabé dont je vous rabats les oreilles un peu régulièrement. Et qui nous explique qu'il y a de cela 50 ans, en écho à la révolte estudiantine française, Dakar s'était aussi embrasé. Les étudiants de l'université s'étaient en effet révoltés contre à l'époque une réforme du baccalauréat associé à des mesures d'austérité qui devaient avoir pour conséquence une diminution des bourses déjà. La réaction de celui qui était à l'époque le président poète, le fameux Léopold Sédar Senghor, fut à l'époque particulièrement brutale, puisqu'à ce moment-là, il a décrété l'état d'urgence et il a mobilisé l'armée qui avait reçu l'ordre de tirer. À l'époque aussi, on avait déjà eu un leader étudiant qui s'appelait Omar Blondin Diop, qui avait été un petit peu en avant du truc et qui, deux ou trois ans plus tard, a été emprisonné sous l'accusation de marxisme-léninisme, de sédition, de trucs dans ce genre-là, et puis qui est mort en prison. Il se serait, paraît-il, suicidé. Enfin, c'était un suicide qui avait quand même été beaucoup remis en question. Toujours est-il qu'un demi-siècle plus tard, au Sénégal comme en France, les universités sont de nouveau en ébullition. Et là... Alors ça a commencé à nouveau pour une histoire de bourse qui n'était pas payée cette fois-ci, c'était pas une histoire de diminution, c'était une histoire que les étudiants boursiers ne touchaient pas leur argent. Là-dessus, manifestation, affrontement avec les flics, et le 15 mai, c'est-à-dire mardi il y a une semaine, Fallou Sen, un étudiant en lettres de 25 ans, a été tué à l'université Saint-Louis au cours d'une manifestation pour réclamer le versement de ses bourses. Depuis, les universités sénégalaises sont en ébullition. Les étudiants, affrontements entre les étudiants et flics, jets de pierre, grenades lacrymo, voilà, on connaît ça. La famille, un truc qui s'est passé, c'est que la famille de ce Fallou Sen est au centre d'un impressionnant ballet politique, puisque deux ministres ont représenté le président Macky Sall en visitant la famille avec une enveloppe de 10 millions de francs CFA, c'est-à-dire 15 000 euros. Et puis, plus étonnant, deux billets d'avion pour aller à la Mecque. Et aussi des promesses d'emploi pour la veuve, pour le frère de Falloussen. Mais alors, il ne faut pas croire que le président est le seul à faire ça, puisque un candidat... Alors, il y a bientôt des élections au Sénégal dans les mois qui viennent. Et donc, un candidat à la présidence, Idrissa Seck, lui, il est aussi venu les voir. Et puis, lui, il a plutôt promis de refaire la maison et le mur d'enceinte de la concession à la famille. Enfin voilà, ces gens se retrouvent quand même au centre d'une sorte de festin de rapaces, mais qui plutôt donne la nourriture en l'occurrence. Alors plus sérieusement, les étudiants, ainsi que le mouvement qui s'appelle Y en a marre, qui est un mouvement d'opposition citoyenne, mais en tout cas qui est pas un mouvement de parti, un mouvement qui a beaucoup été construit sur le fait d'inciter les gens à voter. À l'époque, c'était pour dégager le président Wade. Mais qui n'ont pas été particulièrement contents d'avoir Macky Sall à la place, qui s'est retrouvé opposant à Wad, mais après avoir été son ministre pendant des années. Enfin, c'est comme Macron qui était un opposant à François Hollande, c'est pas bien plus intéressant comme alternance. Donc, y en a marre, eux, ils soutiennent ce mouvement étudiant. Alors voilà. Du coup, le président de la République a décidé personnellement qu'il fallait limoger deux responsables de l'université, celle où Falloussen a été tué. Et donc voilà, ils sont limogés. Le porte-parole du gouvernement commente le truc en disant « L'enjeu est de retourner à l'université et de régler les problèmes par la démarche syndicale. » C'est-à-dire, vous nous envoyez des gens, on parle avec eux, et après, il n'y a plus de soucis. Les étudiants auront l'intelligence pour comprendre la situation et ne pas se laisser piéger par les marchands d'illusions. Alors traduisez, n'allez pas chez l'opposition, ça c'est les marchands d'illusions, et rentrez dans le rang et envoyez-nous des représentants, moyennant quoi on parlera, et puis à la fin rien ne changera, mais tout ira bien. Donc l'important, c'est vraiment cette histoire de syndicats qui jouent un rôle de soupape contre le soulèvement en réalité. La coordination des étudiants de Saint-Louis a finalement quand même décidé de maintenir dimanche dernier son mot d'ordre de grève illimitée. Nos revendications, précise-t-il, ne visaient pas seulement les départs du recteur et du directeur du CROUS, qui marquent plutôt le commencement de notre combat. La grève continue. C'est ce qu'a déclaré un responsable de la coordination, Cheikh Anta Diallo, sur une radio. Les étudiants attendent plus l'aboutissement de requêtes qui débouchent sur un procès condamnant le meurtrier de l'étudiant qui a été tué et le départ du ministre de l'Enseignement supérieur et surtout du ministre de l'Économie et des Finances qui est rendu responsable par le mouvement étudiant du fait que les bourses, à l'heure qu'il est, à l'heure où je vous parle, ne sont toujours pas payées. Et ben voilà, il n'y a pas que la France dans la vie.
Et le Canu Info touche à sa fin. Pour tous les rendez-vous, agenda, n'hésitez pas à aller sur rebellion.info pour les prochains jours et les prochaines semaines. Et nous, on se retrouve dans une semaine. Demain,
est-ce que tu as trouvé ce qu'il y a à faire demain avec cette marche solidaire?
Et alors, j'ai trouvé que c'est à Bron.
Les gens nous écoutent jusqu'à Bron, hein. Ça peut arriver.
Non, ça c'est sûr, les gens nous écoutent jusqu'à Bron, mais c'est que j'ai pas le lieu précis à part que déjà on se rapproche, on sait que c'est à Bron. Mais ça nous dit pas tout quand même, parce que Bron est quand même.
Les gens qui sont intéressés, ils restent à fouiller internet.
Ou à envoyer un mail à l'adresse syndiquée plus tôt dans l'émission.
Voilà, donc nous on se retrouve la semaine prochaine. Demain vous retrouvez le Canu Info à la même heure. Et maintenant ça va être Idée Noire, l'émission de la coordination anarchiste dans 7 minutes.
En attendant un petit peu de musique.
Merci de nous avoir écoutés. Question, I'm a motherland, never turn by back.